de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia d'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie avec le journal et vous êtes avec moi Audrey. Je vais vous présenter quelques informations importantes, entre autres. L'Indonésie et la Malaisie se consulteront pour faire face à l'Union européenne, à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Commandant des forces armées, le Kontinye Garuda est devenu l'ambassadeur de la nation dans un forum international. Le gouvernement de la régence de Jepara explore la coopération avec le Cambodge dans le domaine du tourisme. Les Philippines sont prêtes à faire pression pour la coopération commerciale entre Mindanao et Sulawesi du Nord. Et l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur a organisé un forum sur les investissements dans les transports. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'Indonésie et la Malaisie se consulteront pour faire face à l'Union européenne, à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. La directive sur les énergies renouvelables, RED, il est la mise en œuvre des réglementations, les règlements délégués des AR imposés par l'Union européenne aux produits de l'huile de palme sont des mesures discriminatoires préjudiciables aux pays producteurs d'huile de palme, en particulier l'Indonésie et la Malaisie. Cette politique a entraîné une baisse des exportations d'huile de palme indonésienne vers l'Union européenne. Comme l'a déclaré le ministre coordinateur des affaires économiques Erlang Hartanto aux journalistes à la deuxième réunion du niveau ministériel des pays producteurs d'huile de palme qui s'est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, lundi 18 novembre. Selon Erlanga, il existe actuellement une concurrence entre les pays producteurs d'huile végétale et l'huile de palme. Pour cette raison, l'Indonésie et la Malaisie se consulteront pour faire face à la campagne négative de l'Union européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC.
Jadi sebetulnya kita harus melihat bahwa di ini sebetulnya ada persaingan antara vegetable oil yang lain.
Nous devons vraiment voir cette question. Il existe une autre concurrence entre l'huile de palme et l'huile végétale. La production d'huile de soja est bien inférieure à 30% par rapport à la production d'huile de palme. Concernant les campagnes négatives et la législation signée dans l'Union européenne, l'Indonésie et la Malaisie consulteront et communiqueront dans le traitement de cette affaire à l'OMC. L'Union européenne, qui a mis fin à l'utilisation des carburants de transport à base d'huile de palme, a également réduit les revenus de la Malaisie provenant de ce secteur. Ainsi, selon Erlanga, il serait préférable que l'Indonésie et la Malaisie discutent conjointement de cette affaire à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Commandant des forces armées, le contingent Garuda est devenu l'ambassadeur de la nation dans un forum international. Le commandant en chef de la TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, a déclaré que l'affectation des soldats de la TNI aux missions de paix des Nations Unies incorporées dans le contingent de Garuda était une tâche spéciale, car il est l'ambassadeur de la nation, l'ambassadeur de TNI et le diplomate de TNI dans le forum international. Il a déclaré dans ses marques lues par l'inspecteur général de TNI, le lieutenant général de l'armée indonésienne M. Erindra, lors du départ de 850 membres de la force opérationnelle du contingent Garuda 39B du bataillon d'action rapide pour le Congo à Chilankap, Jakarta-Est, récemment. Selon Cahyanto, la tâche accomplie par les soldats comportera des aspects politiques, socioculturels et diplomatiques. Par conséquent, ils doivent s'acquitter de cette tâche en toute responsabilité et fierté. Le gouvernement de la régence de Jepara explore la coopération avec le Cambodge dans le domaine du tourisme. Le gouvernement de la régence de Jepara au centre de Java commence à explorer une coopération avec le Cambodge dans le domaine du tourisme. C'est ce qu'a affirmé le chef de par intérim de l'Office du tourisme et de la culture de la régence de Jepara, Sambroni Lestiaja, à Jepara. Selon le plan, le Cambodge construira une ville sœur avec la régence de Jepara dans les secteurs de l'éducation, du tourisme et du commerce. L'objectif est d'établir de la coopération et des contacts sociaux entre les résidents, en particulier dans le secteur du tourisme qui peut encourager et se développer la mise en œuvre de ce programme, y compris le secteur industriel. Afin de donner suite à ce plan, la délégation de la régence de Jepara se rendra au Cambodge du 15 au 18 décembre 2019. Les Philippines sont prêtes à faire pression pour la coopération commerciale entre Mindanao et Sulawesi du Nord. Le consulat général des Philippines à Manado, dans le nord de Sulawesi, en collaboration avec l'autorité de développement économique de Mindanao, MINDA, est prêt à encourager la coopération commerciale entre Mindanao, Sulawesi Nord et l'Indonésie orientale. Selon l'ambassadeur des Philippines en Indonésie, Lee Hyon Tewai, et le consul général des Philippines à Mindanao, Oscar Orsin, étaient dans la capitale du Nord de Sulawesi pour accueillir le secrétaire de la MINANA, Emmanuel Pignon, dans la capitale libanaise. Vingt hommes d'affaires et responsables de la MINDA, ainsi que le département de la MINDA et le ministère du Commerce et de l'Industrie des TI. La délégation des Philippines a effectué des missions commerciales dans le nord de Sulawesi du 28 octobre au 1er novembre 2019 afin d'étudier leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de la transformation du ciment, de la noix de coco et du café et de la gestion des déchets. Contrats et accords conclus lors de missions commerciales dont certains peuvent être réalisés immédiatement sous forme d'échanges de biens et d'argent avec la fin de l'année. L'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur a organisé un forum sur les investissements dans les transports. L'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, par le biais de l'unité de travail des transports, a organisé mardi le Forum des investissements dans les transports TIF 2019 à Kuala Lumpur, en Malaisie. L'attaché des transports de l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, le capitaine Anthony Arif Priadi, a déclaré que la mise en œuvre de cette activité visait à promouvoir le potentiel d'investissement du développement des infrastructures indonésiennes auprès d'investisseurs potentiels de Malaisie. L'événement a été ouvert par l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Malaisie, Rusdi Kirana. Dans son discours, Rusdi Kirana a expliqué aux investisseurs malais l'opportunité ouverte d'investir dans plusieurs secteurs des transports au sein du ministère indonésien des Transports. Selon lui, cette opportunité d'investissement peut renforcer les relations commerciales entre l'Indonésie et la Malaisie. Il a expliqué que le développement des infrastructures était très important pour le développement de plusieurs régions d'Indonésie, car en 4 ans, l'Indonésie avait accéléré le développement d'infrastructures reliant les voies terrestres, aériennes et maritimes. Le Japon explore le potentiel de Kalimantan oriental. Le consulat du Japon à Surabaya, Tani Masaki, s'est rendu dans la province de Kalimantan oriental pour constater directement le potentiel de la province qui deviendra l'emplacement de la nouvelle capitale. Tani Masaki et ses collaborateurs ont été reçus lundi par le gouverneur adjoint de Kalimantan oriental, Hati Mulyadi, accompagné des responsables concernés dans la salle de réunion du gouverneur adjoint de Kalimantan oriental. Tani Masaki a déclaré que sa visite à Kalimantan oriental visait à constater directement le potentiel qui peut être coopéré avec son pays concomitant avec la désignation de cette province comme l'emplacement du déplacement de la capitale d'Indonésie. Pendant ce temps, Hadi Mulyadi vise, gouverneur de Kalimantan oriental, a révélé que le gouvernement provincial était ouvert à tous les investisseurs souhaitant investir dans cette province, y compris le gouvernement japonais s'il voulait collaborer à la construction de la capitale d'État. Chers auditeurs, c'était les nouvelles. Bonsoir, chers auditeurs. Vous écoutez maintenant le commentaire d'aujourd'hui de La Voix de l'Indonésie avec moi, Audrey. On a le titre « La manifestation en Iran a marqué la détérioration des relations entre les États-Unis et l'Iran ». L'Iran a de nouveau été frappé par des manifestations. Les gens sont descendus dans les rues de Téhéran et d'autres villes. La manifestation marquée par la destruction d'installations publiques a été déclenchée par la décision du gouvernement d'augmenter les prix du carburant. Lors de la manifestation qui a débuté il y a 3 jours, il y a plus de 10 victimes. Outre le déploiement de forces de sécurité, le gouvernement iranien a également fermé des réseaux Internet nationaux dans presque toutes les régions du pays. Au moins 100 manifestants ont été arrêtés par les forces de sécurité. Les manifestations en Iran ne se sont pas produites une seule fois. Les difficultés économiques qui frappaient les classes moyennes et inférieures avaient déjà conduit à des manifestations. Face à cette situation économique difficile, le président iranien Hassan Rouhani a pris la décision d'augmenter les prix de l'essence. En fait, cette décision était un choix difficile. Mais le gouvernement a été contraint de le faire. La raison principale était de surmonter les problèmes économiques du pays. À la suite de l'imposition des sanctions américaines, l'Iran ne peut plus exporter de pétrole. Les exportations de pétrole sont le pilier du gouvernement pour soutenir et maintenir l'économie du pays. La politique du président iranien, qui est soutenue par l'Ayatollah Ali Khamenei, a immédiatement déclenché la manifestation en tant que forme de rejet. La hausse de prix de l'essence, environ 50%, était en effet très impopulaire. Le président Rouhani a déclaré que la vente de pétrole national serait utilisée pour subventionner les pauvres. Les dernières conditions en Iran qui ont été secouées par des manifestations massives ont également marqué la détérioration des relations entre Téhéran et Washington. Téhéran accuse Washington de soutenir les protestations, l'accusation est en effet raisonnable. À Washington, la secrétaire d'État américain Mike Pompeo a même précisé que le gouvernement des États-Unis était avec les manifestants. Pompeo a accusé le gouvernement iranien d'avoir utilisé la violence contre les manifestants. La manifestation qui a provoqué la mort à Téhéran a conduit à un nouveau conflit entre l'Iran et les États-Unis. Cette situation rend certainement de plus en plus difficile de surmonter ou du moins de réduire les tensions entre les deux pays. Auparavant, le gouvernement de Téhéran avait réussi à réprimer les manifestations qui a été également déclenchée par la détérioration de l'économie due aux sanctions imposées par les États-Unis. Comment la situation cette fois-ci? On attend le développement de la situation suivante. Serge Littard, c'était le commentaire.
Serge Littard, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « Le procès de Nuremberg est commencé le 20 novembre 1945 ». Le procès de Nuremberg a été le premier tribunal des crimes de guerre dans le monde. La première mise en œuvre d'une juridiction pénale internationale pour les cas liés aux principaux membres du groupe de dirigeants politiques, militaires et économiques des nazis de l'Allemagne. Le procès de Nuremberg a été mené dans la ville de Nuremberg en Allemagne. Le procès des 24 personnes les plus importantes des nazis se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Les accusations contre les accusés sont des crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. La Cour, qui est dirigée par Lord Lawrence de l'Angleterre, a condamné à mort contre 12 fonctionnaires des nazis et l'emprisonnement de 10 ans jusqu'à l'emprisonnement à vie pour 7 autres personnes. Une personne se suicide en prison, une personne a une déficience mentale et ne pouvait pas être poursuivie, tandis que d'autres ont été acquittés. Notre information est sur le blocus naval cubain se termine le 20 novembre 1962. La crise des missiles à Cuba a commencé lorsque des drones américains ont découvert un certain nombre de missiles nucléaires soviétiques stationnés à Cuba. Une semaine plus tard, le président John F. Kennedy a condamné l'action soviétique à la télévision. Kennedy a également lancé un blocus naval au Cuba et a menacé d'attaquer les Soviétiques si ces missiles étaient lancés aux États-Unis. En échange de retrait de missiles, les États-Unis ont accepté de ne pas envahir le Cuba et retireraient leurs missiles de Turquie. Cependant, la décision de Khrushchev était contredite par ses deux principaux alliés, la Chine et le Cuba. Le président cubain Fidel Castro a réagi en expulsant les Américains du siège de l'armée à Guantanamo. Le blocus prit officiellement fin le 20 novembre 1962, date à laquelle tous les missiles avaient été déplacés de Cuba. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le 20 novembre 2006, le président Bush s'est rendu en Indonésie. Le président américain George W. Bush a rencontré le président Susilo Bambang Yudhoyono au palais de Bogor le 20 novembre 2006. Cette brève réunion de 6 heures a porté sur diverses questions, notamment l'investissement, le développement de nouvelles sources d'énergie et le système d'alerte rapide au tsunami. Avec la première dame Laura Bush, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et l'ambassadrice américaine Lynn B. Pasco, Bush a conduit un hélicoptère de Halim à Bogor. En dehors de la réunion, diverses manifestations ont eu lieu contre la présence de la première personne en Amérique. L'arrivée de Bush en Indonésie montre la position importante de l'Indonésie sur la scène internationale. Bush veut faire l'Indonésie un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme, les sources d'approvisionnement en énergie et le développement de la démocratisation. Sergio Ritar, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Dengannya ini malam terakhir, benar-benar terakhir. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku, sakit melihatmu dengannya. Tinggal melupakanmu saja, janji diri sendiri. Terakhir malam ini.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Attente, chantée par Kunto Aji. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc Mon Indonésie. Chers amis, nous continuons notre programme avec Mon Indonésie et pour le titre La zone économique spéciale de Galang Batang absorbe l'investissement de 20 trillions de dollars. La zone économique spéciale de Galang Batang sur l'île de Bintan dans la province des îles Riau a absorbé un investissement de 20 trillions de rupiahs en novembre 2019. L'investissement provenait des sociétés Global Aluminium de Singapour, de Prasmeta de la Malaisie et de Mahkota Karya Utama de l'Indonésie. Le directeur de PT Bintan Alumina Indonesia en tant qu'actionnaire, Santoni, a déclaré que l'accord d'investissement avait été signé vendredi dernier et témoigné par le gouverneur par intérim des îles Riau, Isdianto. Selon Santoni, cet investissement concerne spécifiquement le secteur de l'alumine d'une durée de 3 à 5 ans. Santoni a ajouté que ce projet absorberait des dizaines de milliers de travailleurs. Pour la phase initiale, avec une composition de 50% de travailleurs locaux et 50% de travailleurs étrangers. Progressivement, la main-d'œuvre locale dominera. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup de travailleurs locaux qui sont scolarisés en Chine, de sorte que plus tard, ils pourraient revenir à diriger cette entreprise. Pendant ce temps, le gouverneur par intérim des îles Riau, Isdianto, a affirmé que le gouvernement local et les parties prenantes sont prêtes à soutenir l'investissement conformément à l'autorité possédée. Il espère que le projet d'alumine pourra encourager la croissance économique, en particulier dans les îles de Riau, qui ralentit actuellement. Il espère également que les travailleurs locaux seront absorbés afin que l'économie locale augmente également. La zone économique spéciale Galang Batang a été définie par le règlement gouvernemental numéro 42 de 2017, le 12 octobre 2017, qui font de cette région la plus rapide de l'opération. Les principales activités de la zone économique spéciale de Galang Batang sont l'industrie de la transformation de bauxite et de la logistique, d'une superficie de 2333 hectares. Serge Ritter, c'était mon Indonésie de la Voix de Musique à Jakarta.
Seperti melendang. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée « Sans toi » chantée par Lala Suages. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia d'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bono est d'évoque dans l'histoire de la rivière Kampar dans la résidence de Pelalawan dans la province de Riau en Indonésie. La vague Bono de la rivière Kampar est un phénomène naturel dû à la confluence du courant fluvial en mer et du courant marin qui pénètre dans le fleuve en raison de la marée haute. Habituellement, les vagues de Bono ne se produisent que sur le bord de la plage ou de vastes lacs en raison des changements dans les courants d'eau et de vent. La vague, qui est assez grande, est généralement utilisée pour le surf. Par conséquent, si vous voyez un surfeur qui surfe sur la mer, c'est quelque chose de familier. Mais voir un surfeur qui surfe sur le courant de la rivière, c'est une chose extraordinaire. Le plus grand Bono se produit généralement pendant la saison des pluies, lorsque le débit de la rivière Kampar est assez grand, c'est vers novembre et décembre. Scientifiquement, la vague de Bono est un phénomène naturel qui se produit rarement. La vague de Bono résulte de la collision de trois courants d'eau provenant du détroit de Malacca, de la mer de Chine méridionale et du débit de la rivière Kampar qui crée des vagues à l'estuaire de la rivière Kampar d'une hauteur de 4 à 5 mètres et marquée par un grand coup de tonnerre. La vague Bono se produit généralement de 13 à 18 du milieu du mois dans le calendrier islamique. La vague a des couleurs blanches et brunes suivant les eaux de la rivière Kuala Kampar. En outre, la vague Bono se produit également au début et à la fin du calendrier islamique. Pour aller à la rivière Kampar est assez difficile, car il n'y a pas beaucoup de transport en commun pour y aller. Vous devez donc louer une voiture à Pangkalan Kerinci. Pour accéder à l'emplacement de Pekanbaru, vous pouvez accéder de deux manières. La première façon, à travers la route Pekanbaru-Pangkalan Kerinci, puis tourner à gauche au croisement de Bunu et entrer dans la rue Poros Bono jusqu'au village de Teluk Meranti. La deuxième voie est à travers la voie navigable. Vous devriez conduire en voiture de Pekanbaru à Pangkalan Kerinci. Du pont de Pangkalan Kerinci peut être prolongé en bateau rapide jusqu'au village de Teluk Meranti ou au village de Pulau Muda. Ainsi, vous pouvez choisir quelle ligne vous voulez aller. La rivière Kampar ne crée pas seulement un paradis pour les amateurs de surf, mais aussi pour les amateurs de photographie. Ici, vous pouvez prendre des photos d'une maison typique de Malais avec l'arrière-fond des paysages magnifiques et naturels. En outre, vous pourrez pêcher du poisson, vous amuser avec la population locale et assister aux activités des pêcheurs le matin. Et n'oubliez pas de voir les performances artistiques qui se tiennent habituellement dans les halls. Les habitants d'ici sont très sympathiques. Profiter de l'art et des instruments traditionnels deviendra un moyen de relâcher votre fatigue. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
sejenak ke belakang. Masa lalu adalah dulu. Yang semakin menjulang sampai nanti saat menjelang kepastian di kehidupan cerita ini telah menjadi peringatan semua mana sejenak ke belakang masa lalu adalah dulu. Makin menjulang sampai nanti saat menjelang kepastian di penghabisan.
Saya Zodi Talk setelah sang song Dal Ghazali ang titulé Histoire de Vie. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir à tous, on se retrouve dans l'émission de la Voix de l'Indonésie pour la rubrique Apprendre l'Indonésien. Une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Jam Kerja, ou en français, horaire de travail. Bonne étude! Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Jam Kerja » ou en français « Horaire de travail ». La situation est chez Joko, Tony et Endah parlent du travail de Joko.
Di sini biasanya mulai kerja jam berapa?
Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore.
Kalau istirahat, jam berapa?
Istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
Oh, jadi istirahat 1 jam ya?
Iya.
Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, jam kerja, ou en français, horaire de travail. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? En français, ici d'habitude, on commence à travailler à quelle heure? Rata-rata mulai jam 7.30. Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. Dan selesai jam 4 sore. En français, d'habitude, on commence à travailler à 7h30 ou on va terminer à 16h. Istirahat jam berapa? Istirahat jam berapa? En français, la pause à quelle heure? Istirahat jam 12 sampai jam 1. Istirahat jam 12 sampai jam 1. En français, le temps de pause est de midi à 1h. Oh, jadi istirahat 1 jam ya? Oh, jadi istirahat 1 jam ya? En français, oh d'accord. Donc, tu as une heure pour la pause, hein? Serge Littard, dans le dialogue, vous écoutez « Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? » Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? Le mot « biasanya » est un adverbe qui montre l'intensité ou bien la fréquence. Voici les adverbes qui montrent l'intensité ou fréquence, en commençant par le plus fréquent. Selalu. Selalu. Toujours. Biasanya. Biasanya. D'habitude. Sering. Sering. Souvent. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Parfois. Jarang. Jarang. Rarement. Tidak pernah. Tidak pernah. Jamais. Chers auditeurs, voici l'exemple de l'utilisation des adverbes. Saya selalu berangkat kerja pukul 7. Saya selalu berangkat kerja pukul 7. Je vais toujours au travail assez tard. Mereka biasanya pulang kerja jam 4 sore. Mereka biasanya pulang kerja jam 4 sore. D'habitude, ils rentrent à 16 heures. Aku sering pergi sekolah jam 7. Aku sering pergi ke sekolah jam 7. Je vais souvent à l'école à 7 heures. Dia kadang-kadang pulang jam 10 malam. Dia kadang-kadang pulang jam 10 malam. Il rentre parfois à la maison à 10 heures. Tony jarang datang terlambat. Tony jarang datang terlambat. Tony arrive rarement en retard. Chers auditeurs, en fait, il y a encore des autres adverbes. Mais selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, et tidak pernah sont les adverbes les plus souvent utilisés dans la conversation quotidienne. Avant de terminer, apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Di sini biasanya mulai kerja jam berapa?
Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore.
Kalau istirahat, jam berapa?
Istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
Oh, jadi istirahat 1 jam ya?
Iya.
Chers amis, voilà la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous qui voulez savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
terdalam. Terpaksa dan aku berserah, kau pun terbaik bagiku.
C'était la dernière chanson intitulée Pour toi, chantée par Kamala Ayu. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Serge Ritter, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Serge Ritter, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey, et ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson intitulée Soleram. Chers amis, le verset original de cette chanson de Riau contient un message pour que les enfants préservent leur honneur et leur dignité, tandis que la deuxième strophe contient un message pour continuer à maintenir l'unité. La chanson de Soleram n'est pas seulement célèbre en Indonésie, en plus d'être bien connue dans les pays voisins comme la Malaisie. La chanson Soleram a également été chantée par des chanteurs africains et lors des concerts à Prague en République tchèque. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Soleram, chantée par Deloitte. Bonne écoute.
Kalau dicium merah Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.